18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés, comme chaque lundi, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, question ce soir, faut-il reconfiner la France face à cette seconde vague désormais hors de contrôle? Une nouvelle réunion de crise est prévue à l'Élysée demain soir. Et déjà, il se murmure que de nouvelles restrictions pourraient être annoncées en fin de semaine. Et les critiques fusent dans l'opposition sur le manque de cap et le manque de stratégie, à l'image de Damien Abad, chef de file des députés LR.
Pourquoi on en est à cette situation? Et pourquoi il n'y a plus de bonne solution? Parce que la stratégie du gouvernement, elle a échoué sur le tester, tracer, isoler. C'est un échec complet. Parce que c'est la stratégie du temps de retard permanent. Moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est que le gouvernement a toujours 15 jours de retard sur les mesures à prendre. Et je vais être très clair avec vous. Je préfère des confinements locaux à la Toussaint plutôt qu'un confinement généralisé à Noël.
Il a raison, Gérard Carrérou, Damien Abad. Le gouvernement a toujours un train de retard, 15 jours de retard.
Effectivement, sur un certain nombre de sujets, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas le moment de régler les comptes et de régler les comptes politiques. Aujourd'hui, le moment est d'une exceptionnelle gravité. Quand on vous parle de 52 000 contaminations pour hier, et que certains médecins le professeur Delfraissy avait parlé, lui, il disait sans doute le double. Il y en a en fait 100 000, oui, disait-il. Et certains médecins, vraiment spécialisés et crédibles qu'on a entendus dans d'autres circonstances, parlent même de 200 000, c'est-à-dire 4 fois plus que le chiffre. Donc, c'est dire, et on voit bien ce qui se passe alentour, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe. Donc, la situation est effectivement...
Mais ce qu'il dit, Abad, c'est qu'on est en train de gérer la non-préparation de nos hôpitaux par le gouvernement.
Sans doute. Il y a des sujets sur lesquels on peut s'interroger. Si vous voulez que je vous en cite, on peut se demander pourquoi les Italiens ont réussi, dans l'intermède entre les deux... Oui. Entre les deux crises, ont réussi à créer, si vous voulez, 6 000 lits de plus, oui, et à engager 12 000 infirmières.
C'est vrai que le gouvernement en avait promis 8 000 de plus.
Voilà, on peut se poser ce genre de questions, il faudra bien régler ces comptes-là. Et pour l'instant, la question c'est, que va faire le gouvernement? Moi je pense qu'on est parti, le branle-bas est déclenché pour un reconfinement. On verra après dans quelle modalité, mais quand on vous annonce ce soir, c'est il y a une heure, oui, quand on vous annonce qu'il y aura un premier conseil de défense demain, suivi d'un conseil des ministres et d'un deuxième conseil de défense. Entre-temps, et absolument, le Premier ministre aura rencontré les représentants de tous les partis politiques et associations, etc.
Et les partenaires sociaux pour parler de l'économie, des enjeux qu'il y a derrière.
On se dit donc qu'il y a tous les ingrédients pour une annonce en milieu de semaine ou fin de semaine d'une forme de reconfinement. Ouais. Alors on prendra effectivement peut-être, ça ne sera pas exactement à l'identique, par rapport au premier, mais ça sera une forme de reconfinement.
Ce qui est difficile à comprendre tout de même, Charles Villeneuve, c'est qu'à chaque prise de parole, l'exécutif nous dit « on va laisser le temps au temps pour voir les effets de ces mesures ». C'est ce qu'on nous avait dit à propos du couvre-feu, on laissera au moins 15 jours. On est 10 jours plus tard et on annonce déjà un nouveau tour de vis. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible, la stratégie et la vision à long terme de l'exécutif.
Mais il faut croire finalement que toute l'Europe, même les meilleurs élèves aujourd'hui, ont été dans la position de constater si leur décision avait un effet. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Autriche, c'est vrai pour la Suisse. Ce sont les trois meilleurs élèves de l'Europe. Oui. Et ces trois meilleurs élèves prennent là aussi des décisions en forme de tour de vis pour les jours qui viennent.
Moins drastique que les nôtres tout de même, pour l'Allemagne par exemple, qui est loin derrière, hein, 10 000 contaminations par jour.
Non mais justement, l'Allemagne, elle aussi, a des problèmes pour, si vous voulez, cheminer sur la ligne de crête entre l'aspect sanitaire et l'aspect économique. C'est plus difficile parce que, dès le départ, ils ont une stratégie d'application, si vous voulez, des tests beaucoup plus efficaces. Hein, tester, tracer, isoler. C'est toujours la stratégie de la France.
Et puis une culture du respect des règles, si vous me permettez, qui est plus importante que chez nous les Français.
Ça tient au tempérament aussi, qui n'est pas celui des Français. Mais ce qu'on sait, si vous voulez, qui est sur la table, on peut en parler, ça n'est pas tout à fait décidé, c'est vendredi soir que nous saurons, à l'issue des deux conseils de défense auxquels a fait allusion Gérard, que la décision du président de la République sera prise. Mais en gros, ce qui est sur la table, c'est un couvre-feu pour les trois zones les plus écarlates, qui est porté à 19h et plus à 21h, c'est-à-dire pour l'Île-de-France, pour la métropole lyonnaise et marseillaise. Bon, pour l'instant,
le Grand
c'est
Est
ça.
Aussi, on évoque le Grand Est aussi.
Oui, le Grand Est. Et aussi, un confinement beaucoup plus généralisé le week-end, pour ces quatre zones.
Oui.
Bon, Cela étant, je me répète, mais personne ne maîtrise nulle part aujourd'hui l'épidémie. Je voudrais bien voir l'opposition résoudre l'équation extrêmement difficile et incertaine à laquelle fait face l'exécutif.
Bien, on continue d'en parler dans quelques secondes avec les grandes voix. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, à tout de suite, 18h38.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, 18h39, et on parle évidemment de la situation sanitaire et de la nouvelle riposte attendue par l'exécutif. Alors certains scientifiques demandent aussi aujourd'hui, Gérard Carrérou, à ce que l'école, l'université ne reprennent pas à la rentrée après les vacances de la Toussaint. Il y a deux stratégies qui s'opposent. La première est de dire on fait repartir les primaires et les maternelles pour permettre aux parents d'aller travailler parce que les contaminations et les enfants sont moins générateurs de circulation du virus. Et puis une deuxième stratégie qui est de dire par contre on ferme les universités, on ferme les collèges et on ferme les lycées.
Oui, absolument. Et je crois qu'il y a un principe simple, c'est qu'on ne veut pas, et d'ailleurs qui voudrait le contraire, on ne veut pas paralyser à nouveau complètement l'économie. Or on sait que c'est facile, à savoir que les parents qui sont obligés de s'occuper des enfants, si les enfants, je parle des petits,
oui,
si les enfants ne vont plus à l'école, effectivement, les parents, il y a un parent au moins des deux qui ne peut plus travailler. Donc, on va éviter ça. Je pense que la rentrée se fera pour le primaire et pour le début de cycle, si vous voulez.
Oui.
Par contre, est-ce que ça se fera pour les lycées? Je ne sais pas si la mesure est vraiment décidée. En tout cas, pour les universités, c'est là, il faut dire clairement les choses, les universités sont un des foyers prioritaires de contamination.
Qui sont déjà à 50% aujourd'hui de présentiel, c'est-à-dire que les amphis sont plus remplis. Hein.
Voilà, mais il en reste 50%, oui, ça fait beaucoup de monde. C'est une des préoccupations du gouvernement, à la fois de sauvegarder l'école, parce que c'est, comme l'a dit Macron, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, ou 18 ans quand on est à l'université, mais il va bien falloir faire quelque chose là, parce que c'est un point névralgique. Et on arrivera donc à quelque chose qui ressemblera malheureusement à métro boulot dodo pour les parents.
Charles Villeneuve, une réaction et puis après je voudrais vous interroger sur les déclarations assez alarmistes de Geoffroy Roux de Bézieux. Allez-y Charles.
Oui, non, justement, sur lycée, collège et université, et ils constituent 22% d'accélération de la circulation du virus. Donc il est inéluctable de toute façon que des décisions devront être prises. Et tout à l'heure, vous faisiez la remarque sur la riposte graduée,
oui,
permanente, c'est-à-dire on attend de toute façon les effets des décisions restrictives et ensuite on avance. Bon, alors c'est vrai que cette adaptation permanente du virus en essayant de trouver une ligne de crête entre la gestion économique et la protection sanitaire, du coup, toutes les semaines, l'exécutif annonce un petit paquet de restrictions, ce qu'il va faire. Donc jeudi, j'ai dit vendredi, oui, vous m'avez... durant la pause, justement, corrigé en disant...
Entrée en vigueur, sans doute, vendredi.
Entrée en vigueur, voilà, c'est ça, vous avez raison. Et bon, ce qui donne le sentiment, si vous voulez, d'une navigation à vue.
Oui.
En termes de communication et en contrepartie dans l'opinion, une montée inéluctable de l'anxiété,
oui,
des craintes,
et de
l'acceptabilité,
encore une fois, des mesures. Moi, j'entends, comme vous, les scientifiques, les épidémiologistes, les professeurs de renom, qui disent depuis des mois, si c'est pour empiler des mesures les unes après les autres, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est une mesure choc, tout de suite, pour stopper la circulation du virus.
Mais les mesures choc, vous savez, 19h, c'est quand même... je terminais mon intervention en disant, ça sera métro, boulot, dodo.
Oui.
À partir du moment où les gens vont travailler...
La labeur, mais pas de plaisir.
À partir du moment où le couvre-feu sera à 19h,
oui,
il n'y a plus de possibilité de ressortir, sauf pour aller faire 10 minutes de course pour l'alimentaire. Donc effectivement, on entre à nouveau, si vous voulez, dans un cycle qui est évidemment... Mais il y a, par exemple, il y a un tabou dont pour l'instant le gouvernement s'y était engagé, puis il avait reculé lors du premier confinement. C'est que fait-on des 15 à 18 millions de gens qui sont, de l'avis de tous les médecins, de tous les professeurs, les fragiles. Appelons-les les fragiles. Les plus de 65 ans sont les plus fragiles,
oui,
on le sait, on l'a expliqué,
oui,
25 fois. Donc, que fait-on?
C'est la question que j'ai
posée
à notre confinement, invité ce soir.
Ce soir, on en est encore à l'idée... On ne peut pas les confiner de force.
C'est anticonstitutionnel, nous dit,
oui,
le gouvernement.
Voilà. Donc, on en est à l'auto-confinement. C'est-à-dire qu'on a... D'abord, on a constaté que ces gens-là, qui sont à la fois les plus fragiles, mais les plus sérieux pour prendre les mesures sanitaires le font, mais il faudra encore les... Alors, je ne sais pas comment, il va falloir faire une campagne massive pour les inciter à rester chez eux et à ne recevoir personne chez eux.
Deux remarques pour terminer, et puis après, on marquera une nouvelle pause. D'abord, tout le monde, souvenez-vous, s'était moqué de la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui militait pour un reconfinement pendant les 15 jours de la Toussaint. On avait tous un peu ricané pour sauver Noël. Ben, elle avait peut-être raison. Première remarque. Deuxième remarque, les déclarations de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui dit tout à l'heure à la sortie des consultations avec le Premier ministre, reprise des négociations sociales, il y a, en cas de reconfinement, un risque d'effondrement de notre économie. Ça n'est pas rien, ça. C'est aussi la vie des gens.
D'autant que, Julien, il ne faut quand même pas oublier que la santé, ça coûte très cher et il faut beaucoup d'argent pour justement assurer la santé, le fonctionnement des hôpitaux. Et notamment, justement, un recrutement peut-être à l'italienne d'un certain nombre de médecins supplémentaires et d'infirmières supplémentaires.
Il y a des lits de réanimation aujourd'hui qui sont inoccupés parce que nous n'avons pas suffisamment de soignants pour s'occuper de ces lits-là.
Mais on a suffisamment de soignants pour, dans les cliniques privées notamment. Alors, je ne vais pas citer mon cas particulier, celui d'hier dans le Var, où durant la première salve, il y avait quasiment toutes les cliniques de Toulon à hier qui était libre et auquel on n'a jamais fait appel. Or là, il serait temps, puisque semble-t-il, il y a maintenant de toute façon des conversations, des contacts pour mobiliser aussi les privés. Et ça, c'est assez important. Mais il faut toujours se rappeler, et c'est le sens de l'intervention de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est qu'il faut quand même continuer à travailler pour produire et pour que l'argent rentre suffisamment.
Et pas pour les autres, mais pour soi.
Bien sûr,
pour sa famille, pour ses proches.
Pour soi, mais aussi pour faire tourner la santé.
Bien.
Julien, on n'a pas parlé des moyens de transport. Est-ce qu'on pourra circuler? Est-ce qu'il y aura des interdits? On avait quand même vécu dans un monde où on ne pouvait pas faire plus d'une heure et où il ne fallait pas aller à plus de 100 km.
Tu auras le système de dérogation.
Bien. 18h46, on se retrouve dans quelques secondes. Et vous allez voir que tout est lié. On va parler de ce sondage choc qui confirme la défiance inédite des Français vis-à-vis des institutions et de la politique. À tout de suite.